Chapitre 5. Sitôt comme Psyché eut perdu de vue le vieillard et sa famille, son dessein se représenta à elle tel qu'il était, avec ses inconvénients, ses dangers, ses peines, dont elle n'avait aperçu jusque-là qu'une petite partie. Il ne lui restait de tant de trésors qu'un simple habit de bergère. Les palais où il lui fallait coucher était quelquefois le tronc d'un arbre, quelquefois un antre ou une masure. Là, pour compagnon, elle rencontrait des hiboux et force serpents. Son manger croissait sur le bord de quelques fontaines ou pendait aux branches des chênes ou se trouvait parmi celles des palmiers. Qui l'aurait vu pendant le midi, lorsque la campagne n'est qu'un désert, contrainte de s'appuyer contre la première pierre qu'elle rencontrait, et n'en pouvant plus de chaleur, de faim et de lassitude, priant le soleil de modérer quelque peu l'excessive ardeur de ses rayons, puis considérant la terre et ressuscitant avec ses larmes les larves que la canicule l'avait fait mourir, qui l'aurait vu, dis-je, en cet état, et ne se serait pas fondu en pleurs, aussi bien qu'elle aurait été un véritable rocher. Deux jours se passèrent à aller de côté et d'autre, puis revenir sur ses pas, aussi peu certaine du lieu par où elle voulait commencer sa quête que de la route qu'il fallait prendre. Le troisième, elle se souvint que l'amour lui avait recommandé sur toute chose de le venger. Psyché était bonne, jamais elle n'aurait pu se résoudre de faire du mal à ses sœurs autrement que par un motif d'obéissance, quelque méchante et quelque digne de punition qu'elles fussent. Que si elle avait voulu tuer son mari, ce n'était pas comme son mari, mais comme dragon. Aussi ne se posa-t-elle point d'autre vengeance que de faire accroire à chacune de ses sœurs séparément que l'amour voulait l'épouser, ayant répudié leur cadette comme indigne de l'honneur qu'il lui avait fait. Tromperie qui, dans l'apparence, n'aboutissait qu'à les faire courir l'une et l'autre et leur faire consumer un peu plus de temps autour d'un miroir. Dans cette résolution, elle se remet en chemin. Et comme une personne de son sexe vint à passer, où elle avait soin de se détourner des hommes, elle la pria de lui dire par où on allait à certains royaumes, situés en un canton qui était entre telle et telle contrée, enfin, où régnaient les sœurs de Psyché. Le nom de Psyché était plus connu que celui de ces royaumes, ainsi cette femme comprit par là que ce qu'on lui demandait et enseigna à notre bergère une partie de la route qu'il fallait suivre. À la première croisée de chemin qu'elle rencontra, ses frayeurs se renouvelèrent. Les gens qu'avait envoyés Vénus pour se saisir d'elle, ayant rendu à leur reine un fort mauvais compte de leurs recherches, cette déesse ne trouva point d'autre expédient que de faire trompeter sa rivale. Le crieur des dieux est Mercure, c'est un de ses 100 métiers. Vénus le prit dans sa belle humeur, et après s'être laissé dérober par ce dieu 2 ou 3 baisers et une paire de pendants d'oreilles, elle fit marcher avec lui, moyennant lequel il se chargea de crier Psyché par tous les carrefours de l'univers et d'y faire planter des poteaux où ce placard serait affiché. De par la reine de Cythère, soit dans l'un et l'autre hémisphère, tous humains dûment avertis, qu'elle a perdu certaine esclave blonde, se disant femme de son fils, et qui court à présent le monde. Quiconque enseignera sa retraite à Vénus, comme ces choses qui la touchent, aura 3 baisers de sa bouche, qui la lui livrera quelque chose de plus. Notre bergère rencontra donc un de ces poteaux. Il y en avait à toutes les croisées de chemin un peu fréquentées. Après 6 jours de travail, elle arriva au royaume de son aîné. Cette malheureuse femme savait déjà, par le moyen des placards, ce qui était arrivé à sa sœur. Ce jour-là, elle était sortie afin d'en voir un. La satisfaction qu'elle en eut fut véritablement assez grande pour mériter qu'elle la goûtât à loisir. Ainsi, elle renvoya à la ville la meilleure partie de son train et voulut coucher en une maison des champs où elle allait quelquefois, située au-dessus d'une prairie fort agréable et fort étendue. Là, sa joie se dilatait quand notre bergère passa. La maudite reine avait voulu qu'on la laissât seule. Deux ou trois de ses officiers et autant de femmes se promenaient à 500 pas d'elle et s'entretenaient, possible, de leur amour, plus attachés à ce qu'ils disaient qu'à ce que pensait leur maîtresse. Psyché la reconnut d'assez loin. L'autre était tellement occupée à se réjouir du placard que sa sœur se jeta à ses genoux devant qu'elle l'aperçut. Quelle témérité à une bergère! Surprendre sa majesté, la retirer de ses rêveries, se jeter à ses genoux sans l'en avertir. Oh, il fallait châtier cette audacieuse! Et qui es-tu, insolente, qui ose ainsi m'approcher? Hélas, madame, je suis votre sœur, autrefois l'épouse de Cupidon, maintenant esclave et ne sachant presque que devenir. La curiosité de voir mon mari l'a mis en telle colère qu'il m'a chassée. Psyché, m'a-t-il dit, vous ne méritez pas d'être aimée d'un dieu. Pourvoyez-vous d'époux, d'amant, comme vous le jugerez à propos, car de votre vie vous n'aurez aucune part à mon cœur. Si je l'avais donnée à votre fille aînée, elle l'aurait conservée et ne serait pas tombée dans la faute que vous avez faite. Je ne serais pas malade d'une brûlure qui me cause des douleurs extrêmes et dont je ne guérirais de longtemps. Vous n'avez que de la beauté. J'avoue que cela fait naître l'amour, mais pour le faire durer, il faut autre chose. Il faut ce qu'a votre aînée de l'esprit, de la beauté, de la prudence. Je vous ai dit les raisons qui m'empêchaient de me laisser voir. Votre sœur s'y serait rendue, mais pour vous, ce n'a été que légèreté d'esprit, contradiction, opiniâtreté. Je ne m'étonne plus que ma mère ait désapprouvé notre mariage. Elle voyait vos défauts. Que je lui propose de trouver bon que j'épouse votre sœur, je suis certain qu'elle l'agréera. Si je faisais cas de vous, je prendrais le soin moi-même de vous punir. Je laisse cela à ma mère. Elle saura s'en acquitter. Soyez son esclave, puisque vous ne méritez pas d'être mon épouse. Je vous répudie et vous donne à elle. Votre emploi sera, si elle me croit, de garder certaines sortes d'oisons qu'elle fait nourrir dans sa ménagerie de ma tante. Allez la trouver, tout un continent, et portez-lui ses lettres, et passez par le royaume de votre aîné. Vous lui direz que je l'aime, et que, si elle veut m'épouser, tous ses trésors sont à elle. Je vous ai traité comme une étourdie et comme un enfant. Je la traiterai d'une autre manière, et lui permettrai de me voir tant qu'il lui plaira. Qu'elle vienne seulement, et s'abandonne à la laine du zéphyr, comme déjà elle a fait. J'aurai soin qu'elle soit enlevée dans mon palais. Oubliez entièrement notre hymen. Je ne veux pas qu'il vous en rende reste la moindre chose. Non pas même cet habit que vous portez maintenant. Dépouillez-le tout à l'heure. En voilà un autre. Alors, voilà, il a fallu obéir. Et voilà, madame, quel est mon sort. La sœur, se croyant déjà entre les bras de l'amour, chatouillée de ce témoignage de son mérite et de mille autres pensées agréables, ne marchant d'un point à se résoudre en son âme à quitter mari et enfant. Elle fit pourtant la petite bouche devant Psyché, et regardant sa cadette avec un visage de matrone, « Ne vous avais-je pas dit aussi, lui répartit-elle, qu'une honnête femme se doit contenter du mari que les dieux lui avaient donné, de telle façon qu'il fût fait ?» et de ne pas pénétrer plus avant qu'il ne plaisait à ce mari qu'elle pénétra. Si vous m'eussiez cru, vous ne seriez pas vagabonde comme vous êtes. Voilà ce que c'est qu'une jeunesse inconsidérée qui veut agir à sa tête et qui ne croit pas au conseil. Encore êtes-vous heureuse d'en être quitte à si bon marché? Vous méritiez que votre mari vous fît enfermer dans une tour. Oh bien, raisonnons plus sur une faute arrivée. Ce que vous avez à faire est de vous montrer le moins qu'il sera possible. Et puisqu'amour veut que vous ne bougiez d'avec les oiseaux, ne les point quittez. Il y a même trop de somptuosité à votre habit. Cela ne sent pas sa criminelle assez repentante. Coupez ses cheveux et prenez un sac, je vous en ferai donner un. Vous laisserez ici cet accoutrement. Psyché la remercia. Et puisque vous voulez, ajouta la faiseuse de remontrance, suivre toujours votre fantaisie, je vous abandonne et vous laisse aller où il vous plaira. Quant aux propositions de l'amour, nous ferons ce qu'il sera à propos de faire. Là-dessus, elle se tourna vers ses gens et laissa Psyché, qui ne s'en souciait pas trop, et qui voyait bien que son aîné avait mordu à l'hameçon, car à peine tenait-elle à terre, n'en pouvant plus qu'elle ne fût seule pour donner un libre cours à sa joie. Psyché, de ce même pas, s'en alla faire à son autre sœur la même ambassade. Cette sœur-ci n'avait plus d'époux. Il était allé en l'autre monde, à grande journée, et par un chemin plus court que celui que tiennent les gens du commun. Les médecins le lui avaient enseigné. Quoiqu'il n'eût pas plus d'un mois qu'elle était veuve, elle y paraissait déjà, c'est-à-dire que sa personne était en meilleur état. Peut-être l'entendiez-vous d'autre sorte, non, si bien que cette puis née, étant de 2 ans plus jeune, plus nouvelle mariée et moins de fois mère que l'autre, le rétablissement de ses charmes n'était pas une affaire de si longue haleine. Elle pouvait bien plus tôt et plus hardiment se présenter à l'amour. L'autre avait des réparations à faire de tous les côtés. Le bain y fut employé, les chimistes, les attourneuses. Cela étonna le roi, son mari. La galanterie croissait à vue d'œil, mais les galants ne paraissaient point. Il n'y avait ni ingrédients, ni eau, ni essence qu'on éprouva, mais tout cela n'était que plâtrer la chose. Les charmes de la pauvre femme étaient trop avant dans les chroniques du temps passé pour les rappeler si facilement. Tandis qu'elle fait ses préparatifs, sa seconde sœur la prévient, s'en va droit à cette montagne dont nous avons tant parlé, arrive au sommet sans rencontrer de dragon. Cela lui plut fort, elle crut qu'amour lui épargnait ses frayeurs par un privilège particulier. Elle tourna vers l'endroit où elle et sa sœur avaient coutume de se présenter, et pour être enlevée plus aisément par le zéphyr, elle se planta sur un roc qui commandait aux abîmes de ces lieux-là. « Amour, dit-elle, me voilà venue. Notre étourdie de cadette m'a assuré que tu me voulais épouser. Je n'attendais autre chose et me doutais bien que tu la répudierais pour l'amour de moi, car si tu les cervelais, regarde comme je te suis déjà obéissante. Oh, je ne ferai pas comme a fait ma sœur Psyché. Elle a voulu à toutes sortes force te voir. Moi, oh, je veux tout ce que l'on veut. Montre-toi, ne te montre pas, je me tiendrai très heureuse. Si tu me caresses, tu verras comme je sais y répondre. Si tu ne me caresses pas, mon défunt mari m'y a tout accoutumé. Je te ferai rire de son régime, et je t'en dirai 1000 choses divertissantes. Tu ne t'ennuieras point avec moi. Ma sœur Psyché n'était qu'un enfant qui ne savait rien. Moi, je suis un esprit fait. Oh Dieu, je sens déjà une douce haleine. Oh, c'est celle de ton serviteur Zéphyr. Que ne l'as-tu envoyé lui-même? Il m'aurait plutôt enlevé, j'en serais plutôt entre tes bras et tu en serais plutôt entre les miens. Je prétends que tu trouves la chose égale et puisque tu as de l'amour, tu dois aussi avoir de l'impatience. Adieu, misérable mortel que les hommes aiment. Ah, vous voudriez bien être aimé comme moi d'un dieu qui n'eut point de poil au menton. Ce n'est pas pour vous. Qu'il vous suffise de m'invoquer et je pourvoirai à vos nécessités amoureuses. Disant ces paroles, elle s'abandonna dans les airs à son ordinaire. Et au lieu d'être enlevée dans le palais de l'amour, elle tomba premièrement sur une pointe de rocher, et puis sur une autre, de roc en roc. Chacun d'eux emporta sa pièce. Ils se la renvoyaient les uns aux autres comme un jouet, de manière qu'elle arriva le plus joliment du monde, au royaume de Proserpine. Quelques jours après, son aînée se vint planter sur le même roc. Celle-ci fit sa harangue aux Zéphyr. Amant de Flore, lui cria-t-elle, quitte tes amours et me viens porter dans le palais de ton maître. Ne me blesse point en chemin, je suis délicate. Que si tu ne veux envoyer que ton haleine, cela suffira. Aussi bien n'aimais-je pas qu'on me touche, principalement les hommes. Pour l'amour, tant qu'il lui plaira, prends garde surtout à ne point gâter ma coiffure. Ayant dit ces mots, elle tira un miroir de sa poche et fut quelque temps à se regarder, raccommodant un cheveu en un endroit puis en un autre, quelquefois rien. Non sans se mouiller les lèvres, et tant de façon que si l'amour avait été là, il en aurait ri. Elle remit son miroir, accusant le plus agréablement qu'elle put le Zéphyr d'être un paresseux qui ne se souciait que de ses amours, négligeait celle de son maître. Mais se moquait-il de la laisser au soleil? Et justement, comme elle achevait ses reproches, un petit russe qui s'était fortuitement égaré vint passer à quatre pas d'elle. Jugez la joie. Notre prétendu fiancé se donne le branle à soi-même, mais au lieu d'aller trouver l'amour comme elle pensait, elle va trouver sa sœur droit par le chemin que l'autre lui avait tracé, sans se détourner d'un pas. Ce sont les échos de ces rochers qui nous ont appris la mort des deux sœurs. Ils la contèrent quelque temps après aux Zéphyr. Lui, incontinent, d'en apporter la nouvelle au fils de Vénus, qui le régala d'un fort beau présent. Psyché, cependant, continuait de chercher l'amour, toujours en son habit de bergère. Il avait une telle grâce sur elle que, si son ennemi l'eût vue avec cet habit, elle lui en aurait donné un de déesse en la place. Les afflictions, le travail et la crainte, le peu de repos et de nourriture avaient toutefois diminué ses appas, si bien que, sans une force de beauté extraordinaire, ce n'aurait plus été que l'ombre de cet objet qui avait tant fait parler de lui dans le monde. Bien lui prit d'avoir des charmes à moissonner pour le temps et pour la douleur, et encore de reste pour elle. Le plus cruel de son aventure étaient les craintes qu'on lui donnait. Tantôt, elle entendait dire que Vénus la faisait chercher par d'autres gens, quelquefois même qu'elle était tombée entre les mains de son ennemi qui, à force de tourments, l'avait rendue méconnaissable. Un jour, elle eut une telle alarme qu'elle se jeta dans une chapelle de Cérès, comme en un asile qui de bonne fortune se présentait. Cette chapelle était près d'un champ dont on venait de couper les blés. Là, les laboureurs des environs offraient tous les ans les prémices de leur récolte. Il y avait un grand monceau de javel à l'entrée du temple. Notre bergère se prosterna devant l'image de la déesse, puis lui mit au bras un chapeau de fleurs, lesquelles elle venait de cueillir en courant et sans aucun choix. C'était de ces fleurs qui croissent parmi les blés. Psyché avait ouï dire au sacrificateur de son pays qu'elle plaisait à Cérès, et qu'une personne qui voulait obtenir des dieux quelque chose ne devait point entrer dans leur maison les mains vides. Après son offrande, elle se remit à genoux et fit ainsi sa prière. Divinité la plus nécessaire qui soit au monde, nourrice des hommes, protège-moi comme serait celle que je n'ai jamais offensée. Souffre seulement que je me cache pour quelques jours entre les javelles qui sont à la porte de ton temple et que je vive du blé qui en tombera. Si Thérée se plaint de ce que son fils m'a voulu du bien, mais puisqu'il ne m'en veut plus, n'est-ce pas assez de satisfaction pour elle et assez de peine pour moi? Faut-il que la colère des dieux soit si grande? S'il est vrai que la justice soit retirée parmi eux, ils doivent considérer l'innocence d'une personne qui leur obéit en se mariant. Ai-je corrompu l'oracle? Ai-je usé d'aucun artifice pour me faire aimer? Puis-je m'aimer si un dieu me voit? Mais quand je m'enfermerai dans une tour, ne me verrait-il pas? Tant s'en faut qu'en l'épousant, je crusse faire du déplaisir à sa mère, car je croyais épouser un monstre. Il s'est trouvé que c'était l'amour et que j'avais plu à ce dieu. C'est donc un crime d'être agréable? Hélas, je ne le suis plus, et je n'ai jamais été par ma faute. Il ne se trouvera point que j'ai employé ni affaîterie, ni paroles ensorcelantes. Vénus a encore sur le cœur l'indiscrétion des mortels qui ont quitté son culte pour m'honorer. Mais qu'elle se plaigne donc des mortels? Mais de moi, c'est une injustice. Je leur ai dit qu'ils me faisaient tort. Mais si les hommes sont imprudents, ce n'est pas à dire que je sois coupable. C'est ainsi que notre bergère se justifiait à Cérès. Soit que les déesses s'entendent ou que celle-ci fût fâchée de ce qu'on l'avait appelée nourrice ou que le ciel veuille que nos prières soient véritablement des prières et non des apologies, celle de Psyché ne fut nullement écoutée. Cérès lui cria de la voûte de sa chapelle qu'elle se retira au plus vite et laissa le tas de javel comme il était. Sinon, Vénus en aurait la vie. Pourquoi rompre en faveur d'une mortelle avec une déesse de ses amis? Vénus ne lui en avait donné aucun sujet. Qu'on dit tout ce qu'on voudrait de sa conduite, c'était une bonne femme qui lui avait obligation à la vérité, ainsi qu'à Bacchus. Mais elle le savait bien reconnaître et le publiait partout. Ce fut beaucoup de déplaisir à Psyché de se voir excluse d'un asile où elle aurait cru être mieux venue qu'en pas un autre qui fût au monde. En effet, si Cérès, bienfaisante de son naturel et qui ne s'équipait pas de beauté, lui refusait sa protection, il n'y avait guère d'apparence que des déesses tant soit peu galantes et d'humeur jalouse lui accordassent la leur. D'y intéresser les dieux, c'était s'exposer à quelque chose de pire que la persécution de Vénus. Il fallait savoir auparavant quelle sorte de reconnaissance ils exigeraient de la belle. Encore le plus à propos était-il de ne s'adresser qu'aux divinités de son sexe, tant pour empêcher la médisance que pour ne donner aucun ombrage à son mari. Junon, là-dessus, lui vint en esprit. Psyché crut qu'ayant quelque sorte d'émulation entre Cythérée et cette déesse, et pour le crédit et pour la beauté, la reine des dieux serait bien aise de trouver une occasion de nuire à sa concurrente, suivant l'usage de la cour et le serment que font les femmes en venant au monde. Il ne fut pas difficile à notre bergère de trouver Junon. La jalouse femme de Jupiter descend souvent sur la terre et vient demander aux mortels des nouvelles de son mari. Psyché, l'ayant rencontré, lui chanta un hymne où il n'était fait mention que de la puissance de cette déesse, en quoi elle commit une faute. Il valait mieux, bien mieux, s'étendre sur sa beauté. La louange en est tout autrement agréable. Ce sont les rois que l'on n'entretient que de leur grandeur. Pour les reines, il faut les féliciter d'autre chose, qui veut bien faire. Aussi l'épouse de Cupidon fut-elle conduite encore une fois. La différence qu'il y eut fut que celle-ci se passa quelque peu plus mal que la première. Car, outre les considérations de Cérès, Junon ajouta qu'il fallait punir ces mortels à qui les dieux font l'amour et obliger leurs galants à rester au logis. Que venaient-ils faire parmi les hommes? Comme s'il n'y avait pas dans le ciel assez de beauté pour eux. Non qu'elle en parlât pour son intérêt, se souciant peu de ces choses, et ne craignant du côté des charmes qui que ce fût. La reine des dieux ne disait pas tout. Il y avait encore une raison plus pressante que celle-là. Comment on pourrait dire quelque étincelle de ce feu dont on avertit les voisins que le moins qu'on peut? Une femme judicieuse ne doit point désobliger le fils de Vénus. C'est elle si quelque jour elle n'aura point affaire de lui. Apparemment, le courroux du dieu durait encore contre Psyché. Ainsi, le plus sûr était de ne point entrer dans leurs différends. Notre bergère, rebutée de tant de côtés, ne sut plus à qui s'adresser. Il restait véritablement Diane et Pallas, mais l'une et l'autre ayant fait vœu de virginité, n'auraient pas les prières d'une femme pour agréables et croiraient souiller leurs oreilles en les écoutant. Toutefois, comme Diane rendait des oracles, la bergère crut que, pour le moins, cette déesse ne serait pas si farouche que de lui en refuser un, et ne lui en demanderait pas autre chose. Aussi bien se rendait-il en un lieu tout proche. Ce ne serait pas pour elle un fort grand détour. Le lieu était à l'entrée d'une forêt extrêmement solitaire et propre à la chasse. Diane y avait un temple dont elle faisait une de ses maisons de plaisir. On faisait environ 2000 pas dans le bois, puis on rencontrait une clairière qui servait comme de parvis au temple. Il était petit, mais d'une fort belle architecture. Au milieu de la clairière, on avait placé un obélisque de marbre blanc à 4 faces, posé sur autant de boules et élevé sur un piédestal ayant de hauteur moitié de celle de l'obélisque. Sur chaque côté du plinthe, qui regardait directement, aussi bien que les faces de la pyramide, le midi, le septentrion, le couchant et le levant, étaient entaillés ces mots « Qui que tu sois qui a sacrifié à l'amour ou à l'hyménée, garde-toi d'entrer dans mon sanctuaire. » Psyché, qui avait sacrifié à l'un et à l'autre, n'osa entrer dans le temple. Elle demeura à la porte où la prêtresse lui apporta cet oracle. Cesse d'être errante. Ce que tu cherches a des ailes. Quand tu sauras comme lui marcher dans les airs, tu seras heureuse. Ces paroles ne démentaient point l'ambiguïté et l'obscurité ordinaire des réponses que font les dieux. Psyché se tourmenta fort pour en tirer quelque sens et n'en put venir à bout. « Que le ciel, dit-elle, me prescrive ce qu'il voudra. Il faut mourir ou trouver l'amour. Nous ne le saurions trouver, mais il faut donc mourir. Allons nous livrer à notre ennemi, c'en est le moyen. Mais l'oracle m'a assuré que je serai quelque jour heureuse. Allons nous jeter aux pieds de Vénus. Nous la servirons, nous endurerons patiemment ses outrages. Cela l'émouvra à compassion, elle nous pardonnera, nous recevra pour sa fille, et fera ma paix elle-même avec son fils. C'étaient là les plus belles espérances du monde, et bien enchaînées, comme vous voyez. Un moment de réflexion les détruisait toutes. Psyché se confirma toutefois dans son dessein. Elle s'informa du plus prochain temple de Cythérée, résolue, si la déesse y était présente, de s'embarquer et d'aller en Cypre. On lui dit qu'à 3 ou 4 journées de là, il y en avait un fort fameux et fort fréquenté, portant pour inscription à la déesse des grâces. Apparemment, Vénus s'y plaisait et y tenait souvent en personne son tribunal, vu les miracles qui s'y faisaient et le grand concours de gens qui y accouraient de tous les côtés. Il y en avait même qui se vantaient de l'y avoir vu plusieurs fois. Notre bergère se met en chemin, plus heureuse, ce lui semblait, que d'avant l'oracle, car elle savait du moins ce qu'elle avait envie de faire, sortirait d'irrésolution et d'incertitude, qui sont les pires de tous les maux, pourrait voir l'amour, n'y ayant pas d'apparence, que sa mère vint si souvent en un lieu sans y amener. Supposez que la pauvre épouse n'eût cette satisfaction qu'en présence d'une belle-mère qui la haïssait, et qui, bien loin de la reconnaître pour sa bru, la traiterait en esclave, c'était toujours quelque chose, les affaires pourraient changer, la compassion, la vue de la belle, son humilité, sa douceur, le peu de liberté de l'entretenir, tout cela serait capable de rallumer le désir du Dieu. En tout cas, elle le verrait, et c'était beaucoup. Toute peine lui serait douce quand elle lui pourrait procurer un quart d'heure de ce plaisir. Psyché se flattait ainsi. Pauvre infortuné, qui ne songeait pas combien les haines des femmes sont violentes. Hélas, la belle ne savait guère ce que le destin lui préparait. Le cœur lui battit pourtant dès qu'elle approcha de la contrée où elle était le temple. Longtemps devant que l'on y arriva, on respirait un air embaumé, tant à cause des personnes qui venaient offrir des parfums à la déesse, et qui étaient parfumées elles-mêmes, que parce que le chemin était bordé d'orangers, de jasmin, de myrte, et tout le pays parsemé de fleurs. On découvrait le temple de loin, quoiqu'il fût situé dans une vallée. Mais cette vallée était spacieuse, plus longue que large, ceinte de coteaux merveilleusement agréables. Ils étaient mêlés de bois, de champs, de prairies, d'habitations, qui se ressentait d'un long calme. Vénus avait obtenu de Mars une sauvegarde pour tous ces lieux. Les animaux même ne s'y faisaient point la guerre. Jamais de loups, jamais d'autres pièges que ceux que l'amour fait tendre. Dès qu'on avait atteint l'âge de discernement, on ne faisait enregistrer dans la contrée de Dieu. Et les filles à 12 ans, les garçons à 15. Il y en avait à qui l'amour venait avant la raison. S'il se rencontrait une indifférente, on en purgeait le pays. Sa famille était séquestrée pour un certain temps. Le clergé de la déesse avait soin de purifier le canton où ce prodige était survenu. Voilà quant aux mœurs et au gouvernement du pays. Il abondait en oiseaux de jolis plumages. Quelques tourterelles s'y rencontraient. On en comptait jusqu'à 3 espèces, tourterelles oiseaux, tourterelles nymphes et tourterelles bergères. La seconde espèce était rare. Au milieu de la vallée coulait un canal de même longueur que la plaine, large comme un fleuve, et d'une eau si transparente qu'un atome se fût vu au fond. En un mot, un vrai cristal fondu. Force nymphe et force sirène s'y jouaient, on les prenait à la main. Les personnes riches avaient coutume de s'embarquer sur ce canal qui les conduisait jusqu'au degré du parvis. Ils louaient, au fond, je ne sais combien d'amour, qui plus, qui moins, selon la charge qu'avait le vaisseau. Chaque amour avait son signe, qu'il attelait à la barque, et, monté dessus, il le conduisait avec un ruban. Deux autres nacelles suivaient, l'une chargée de musique, l'autre de bijoux et d'oranges douces. Ainsi s'en allait la barque fort gaiement. De chaque côté du canal s'étendait une prairie verte comme fine émeraude et bordée d'ombrages délicieux. Il n'y avait point d'autre chemin. Cela était tellement fréquenté que Psyché jugea à propos de ne marcher que de nuit. Sur le point du jour, elle arriva à un lieu nommé les Deux Sépultures. Je vous en dirai la raison parce que l'origine du temple en dépend. Un roi de Lydie, appelé Philocrarès, pria autrefois les Grecs de lui donner femme. Il lui importait de quelle naissance pourvu que la beauté s'y trouvât. Une fille est noble quand elle est belle. Ses ambassadeurs disaient que leur prince avait le goût extrêmement délicat. On lui envoya deux jeunes filles, l'une s'appelait Myrtis, l'autre Mégano. Celle-ci était fort grande, de belle taille, les traits du visage très beaux et si bien proportionnés qu'on n'y trouvait qu'à reprendre. L'esprit fort doux. Avec cela, son esprit, sa beauté, sa taille, sa personne ne touchait point faute de Vénus qui donna le sel à ces choses. Myrtis, au contraire, excellait en ce point-là. Elle n'avait pas une beauté si parfaite que Mégano. Même un médiocre critique y aurait trouvé matière de s'exercer. En récompense, il y avait six petits endroits sur elle qui n'eussent à Vénus, et puis deux d'aucune, outre celle qui animait tout le corps en général. Aussi le roi la préféra-t-il à Mégano et voulut qu'on la nommât Aphrodisée, tant à cause de ce charme que parce que le nom de Myrtis sentait sa bergère ou sa nymphe au plus et ne sonnait pas assez pour une reine. Les gens de sa cour, afin de plaire à leur prince, appelèrent Mégano Anaphrodite. Elle en conçut un tel déplaisir qu'elle mourut peu de temps après. Le roi la fit enterrer honorablement. Aphrodisée a vécu fort longtemps et toujours heureuse, possédant le cœur de son mari tout entier. On lui en offrit beaucoup d'autres qu'elle refusa. Comme les grâces étaient cause de son bonheur, elle se crut obligée à quelque reconnaissance envers leur déesse et persuada son mari de lui faire bâtir un temple, disant que c'était un vœu qu'elle avait fait. Philocarès approuva la chose. Il y consuma tout ce qu'il avait de richesse, puis ses sujets y contribuèrent. La dévotion fut si grande que les femmes consentirent que l'on vendît leur collier. Et n'en ayant plus, elles suivirent l'exemple de Rhodope. Myrtis eut la satisfaction de voir, avant que de mourir, le parachèvement de son vœu. Elle ordonna par son testament qu'on lui bâtît un tombeau le plus près du temple qu'il se pourrait, hors du parvis toutefois, joignant le chemin le plus fréquenté. Là, ses cendres seraient enfermées, et son aventure écrite à l'endroit le plus en vue. Philocarès, qui lui survécut, exécuta cette volonté. Il fit élever à son épouse un mausolée digne d'elle, et de lui aussi, car son cœur y devait tenir compagnie à celui d'Aphrodisée. et pour rendre plus célèbre la mémoire de cette chose et la gloire de Myrtis plus grande, on transporta en ce lieu les cendres de Mégano. Elles furent mises dans un tombeau presque aussi superbe que le premier, sur l'autre côté du chemin. Les deux sépulcres se regardaient. On voyait Myrtis sur le sien, entouré d'amour, qui lui accommodait le corps et la tête sur des carreaux. Mégano, de l'autre part, se voyait couché sur le côté, un bras sous la tête, versant des larmes en la posture où elle était morte. Sur la bordure du mausolée où reposait la reine des Lydiens, ces mots se lisaient « Ici repose Myrtis, qui parvint à la royauté par ses charmes et qui en acquit le surnom d'Aphrodisée. » À l'une des faces qui regardait le chemin, ces autres paroles étaient « Vous qui allez visiter ce temple, arrêtez un peu et écoutez-moi. De simple bergère que j'étais née, je me suis vue reine. Ce qui m'a procuré ce bien, ce n'est pas tant la beauté que ce sont les grâces. J'ai plu et cela suffit. C'est ce que j'avais à vous dire. Honorez ma tombe de quelques fleurs, et pour récompense, veuille la déesse des grâces que vous plaisiez. » Et sur la bordure de l'autre tombe étaient ces paroles « Ici sont les cendres de Mégano, qui ne put gagner le cœur qu'elle contestait, quoiqu'elle eût une beauté accomplie. » Et à la face du tombeau, ces autres paroles se rencontraient « Si les rois ne m'ont aimé, ce n'est pas que je fusse assez belle pour mériter que les dieux m'aimassent, mais je n'étais pas, dit-on, assez jolie. Cela se peut-il ? Oui, cela se peut, et si bien qu'on me préféra ma compagne. Elle en acquit le surnom d'Aphrodisée, moi celui d'Anaphrodite. J'en suis morte de déplaisir. Adieu, passant. Je ne te retiens pas davantage, sois plus heureux que je n'ai été, et ne te mets point en peine de donner des larmes à ma mémoire. Si je n'ai fait la joie de personne, du moins, ne veux-je troubler la joie de personne aussi. » Psyché ne laissa pas de pleurer. « Mégano, dit-elle, je ne comprends pas rien à ton aventure. Je veux que Myrtis eût des grâces, n'est-ce pas en avoir aussi que d'être belle comme tu étais ? Adieu, Mégano, ne refuse point mes larmes, je suis accoutumé d'en verser. » Elle alla ensuite jeter des fleurs sur la tombe d'Aphrodisée. Cette cérémonie étant faite, le jour se trouva assez grand pour lui faire considérer le temple à son aise. L'architecture en était exquise et avait autant de grâce que de majesté. L'architecte s'était servi de l'ordre ionique à cause de son élégance. De tout cela, il résultait une Vénus que je ne saurais vous dépeindre. Le frontispice répondait merveilleusement bien au corps. Sur le tympan du fronton se voyait la naissance de Cythérée en figure de haut relief. Elle était assise dans une conque, en l'état d'une personne qui viendrait de se baigner et qui ne ferait que de sortir de l'eau. Une des grâces lui éprégnait les cheveux encore tout mouillés. Une autre tenait des habits tout prêts pour les lui vêtir dès que la troisième aurait achevé de l'essuyer. La déesse regardait son fils, qui menaçait déjà l'univers d'une de ses flèches. Deux sirènes tiraient la conque. Mais comme cette machine était grande, le zéphyr la poussait un peu. Des légions de jeux et de riz se promenaient dans les airs, car Vénus naquit avec tout son équipage, toute grande, toute formée, toute prête, à recevoir de l'amour et à en donner. Les gens de Paphos se voyaient de loin sur la rive, tendant les mains, les levant au ciel et ravi d'admiration. Les colonnes et l'entablement étaient d'un marbre plus blanc que la baltre. Sur la frise, une table de marbre noir portait pour inscription du temple à la déesse des grâces. Deux enfants à demi couchés sur l'architrave laissaient pendre à des cordons une médaille à deux têtes. C'était celle des fondateurs. À l'entour de la médaille, on voyait écrit Philocarès et Myrtis Aphrodisée, son épouse, ont dédié ce temple à Vénus. Sur chaque base des deux colonnes, les plus proches de la porte, étaient entaillés ces mots « Ouvrage de Lysimante », nom de l'architecte apparemment. Avant que d'entrer dans le temple, je vous dirai un mot du parvis. C'étaient des portiques ou galeries basses, et au-dessus des appartements fort superbes, chambres dorées, cabinets et bains, enfin mille lieux où ceux qui apportaient de l'argent trouvaient de quoi l'employer. Ceux qui n'en apportaient point, on les renvoyait. Psyché, voyant ces merveilles, ne se put tenir de soupirer. Elle se souvint du palais dont elle avait été la maîtresse. Le dedans du temple était orné à proportion. Je ne m'arrêterai pas à vous le décrire. C'est assez que vous sachiez que toutes sortes de vœux dont toutes sortes de personnes s'étaient acquittées s'y voyaient en des chapelles particulières pour éviter la confusion et ne rien cacher de l'architecture du temple. Là, quelques auteurs avaient envoyé des offrandes pour reconnaissance de la Vénus que leur avait départie le ciel. Ils étaient en petit nombre. Les autres arts, comme la peinture et ses sœurs, en fournissaient beaucoup davantage. Mais la multitude venait des belles et de leurs amants, l'un pour des faveurs secrètes, l'autre pour un mariage, celle-ci pour avoir enlevé un amant à cet autre-là, et une certaine Calinicée, qui s'était maintenue jusqu'à 60 ans bien, avec les grâces, et encore mieux avec les plaisirs, avait donné une lampe de vermeil doré et la peinture de ses amours. Je ne vous aurais jamais spécifié ses dons, il s'en trouvait même de capitaines dont les exploits, comme dit le bon Amyot, avaient cette grâce de soudaineté qui les rendait encore plus agréables. L'architecture du tabernacle n'était guère plus ornée que celle du temple, afin de garder la proportion. Et de crainte aussi que la vue, étant dissipée par une quantité d'ornements, ne s'en arrêtât au point à considérer l'image de la déesse, laquelle était véritablement un chef-d'œuvre. Quelques envieux ont dit que Praxidèle avait pris la sienne sur le modèle de celle-là. On l'avait placée dans une niche de marbre noir entre des colonnes de cette même couleur, ce qui la rendait plus blanche et faisait un bel effet à la vue. À l'un des côtés du sanctuaire, on avait élevé un trône où Vénus, à demi couchée sur des coussins de senteur, recevait, quand elle venait dans ce temple, les adorations des mortels et distribuait ses grâces ainsi que bon lui semblait. On ouvrait le temple assez matin afin que le peuple fût écoulé quand les personnes qualifiées entraient. Cela ne servit de rien cette journée-là, car dès que Psyché parut, on s'assembla autour d'elle. On crut que c'était Vénus qui, pour quelque dessein caché ou pour se rendre plus familière, peut-être aussi par galanterie, avait un habit de simple bergère. Au bruit de cette merveille, les plus paresseux accoururent incontinent. La pauvre Psyché s'alla placer dans un coin du temple, honteuse et confuse de tant d'honneur, dont elle avait grand sujet de craindre la suite, et ne pouvait pourtant s'empêcher d'y prendre plaisir. Elle rougissait à chaque moment, se détournait quelquefois le visage, témoignait qu'elle eût bien voulu faire sa prière. Tout cela en vain, elle fut contrainte de dire qui elle était. Quelques-uns la crurent, d'autres persistèrent dans l'opinion qu'ils avaient. La foule était tellement grande autour d'elle que quand Vénus arriva, cette déesse eut de la peine à passer. On l'avait déjà avertie de cette aventure. Ce qui la fit accourir, le visage en feu comme une mégère, et non plus la reine des grâces, mais les furies. Toutefois, de peur de sédition, elle se contint. Ses gardes lui en fait faire passage. Elle alla placer sur son trône où elle écouta quelques suppliants avec assez de distraction. La meilleure partie des hommes était demeurée auprès de Psyché avec les femmes les moins jolies ou qui étaient sans prétention et sans intérêt. Les autres avaient pris d'abord le parti de la déesse. Étant de la politique parmi les personnes de ce sexe qui se sont mises sur le bon pied, de faire la guerre aux survenantes, comme à celles qui leur ôtent, pour ainsi dire, le pain de la main. Je ne saurais vous assurer bien précisément si elles tiennent cette coutume-là des auteurs ou si les auteurs la tiennent d'elles. Notre bergère, n'osant approcher, la déesse la fit venir. Une foule d'hommes l'accompagna, et la chose ressemblait plutôt à un triomphe qu'à un hommage. La pauvre Psyché n'était nullement coupable de ses honneurs. Au contraire, si l'on eût cru, on ne l'aurait pas regardée. Elle faisait de sa part tout ce qu'une suppliante doit faire. La présence de Vénus lui avait fait oublier sa harangue. Il est vrai qu'elle n'en eut pas besoin, car dès que Vénus la vit, à peine lui donna-t-elle le loisir de se prosterner. Elle descendit de son trône. « Je vous veux, » dit-elle en tendre en particulier. « Venez à Paphos, je vous donnerai place en mon char. » Psyché se défia de cette douceur, mais quoi, il n'était plus temps de délibérer. Et puis c'était à Paphos, principalement, qu'elle espérait recevoir son époux. De crainte qu'elle n'échappât, Vénus la fit sortir avec elle. Les hommes donnant 1000 bénédictions à leurs deux déesses, et une partie des femmes disant entre elles « C'est encore trop que d'en avoir une. Établissons parmi nous une république où les vœux, les adorations, les services, les biens d'amour seront en commun. Si Psyché s'en vient encore une fois amuser les gens qui nous serviront à quelque chose, et qu'elle prétende réunir ainsi tous les cœurs sous une même domination, mais nous la faut lapider. » On se moqua des républicaines, et on souhaita bon voyage à notre bergère. Cythérée la fit monter effectivement sur son char, mais ce fut avec 3 divinités de sa suite peu gracieuses. Il y a de toutes sortes de gens à la cour. Ces divinités étaient la colère, la jalousie et l'envie. Monstres sortis de l'abîme, impitoyables licteurs qui ne marchaient point sans fouet et dont la seule vue était un supplice. Vénus s'en alla par un autre endroit. Comme si je se vis dans les airs en si mauvaise compagnie que celle-là, un tremblement la saisit, ses cheveux se hérissèrent, la voix lui demeura au gosier. Elle fut longtemps sans pouvoir parler, immobile, changée en pierre et plutôt statue que personne véritablement animée. On l'aurait crue morte sans quelques soupirs qui lui échappèrent. Les diverses peines des condamnés lui passèrent devant les yeux, et son imagination les lui figura encore plus cruelles qu'elles ne sont. Il n'y en eut point que la crainte lui fît souffrir par avance. Enfin, se jetant aux pieds de ces trois furies, « Si quelque pitié, dit-elle, loge en vos cœurs, ne me faites pas languir davantage. Dites-moi à quel tourment je suis condamné. Ne vous aurait-on point donné ordre de me jeter dans la mer? Je vous en épargnerai la peine, si vous voulez, et m'y précipiterai moi-même. » Les trois filles de l'Achéron ne lui répondirent rien et se contentèrent de la regarder de travers. Elle était encore à leurs genoux lorsque le char s'abattit. Il posa sa charge en un désert, dans l'arrière-cour d'un palais que Vénus avait fait bâtir entre deux montagnes, à mi-chemin de Matonte et de Paphos. Quand Sidérée était lasse des embarras de sa cour, elle se retirait dans ce lieu avec 5 ou 6 de ses confidentes. Là, qui que ce soit ne l'allait voir. Des médisants disent toutefois que quelques amis particuliers avaient la clé du jardin. Vénus était déjà arrivée quand le char parut. Les trois satellites menèrent Psyché dans la chambre où la déesse se rajustait. Cette même crainte qui avait fait oublier à notre bergère la harangue qu'elle avait faite lui en rafraîchit la mémoire. Bien que les grandes passions troublent l'esprit, il n'y a rien qui rende éloquent comme elles.